Écoutez, écoutez, je reçois des informations maintenant, écoutez.
Le feuilleton va recommencer pour quelques épisodes, capitaine.
Nous ne sommes pas des robots, Sébastien, mais des êtres vivants.
Voilà le pied d'Armstrong. Au centre et en bas de votre écran. Et il marche maintenant.
On peut dire aujourd'hui que la science-fiction est bel et bien partout.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique?
Est-ce vraiment si invraisemblable?
Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par L'œil de Chéri. Cette quatrième saison permet de tester de nouveaux formats. On en a lancé deux cette saison. Il y a Nouvelle Voix, qui met en avant une ou un jeune autrice ou auteur de science-fiction. Et on lance ici un nouveau format, ça va s'appeler Retour sur un classique, un podcast qui met en avant un chef-d'œuvre du genre qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie. Voilà, c'est dit. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à nous réclamer plus d'épisodes sur des romans. Et puis, c'est aussi l'occasion de parler de classiques. Donc, ça fait toujours du bien de se plonger dans les grands textes qui ont fait de la science-fiction. Et ça tombe bien, je suis très heureux d'ouvrir ce nouveau format avec L'Homme des Jeux de Ian M. Banks, un roman disponible au livre de poche et qui ouvre le cycle de la culture. C'est un roman exceptionnel, moi qui m'avait beaucoup plu. Je l'ai découvert assez tardivement, je crois, il y a à peu près 5 ans, et j'ai littéralement adoré. J'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver Alice Karabédian. On l'avait eu sur notre podcast, on l'avait invité pour parler de son essai Utopie radicale, un essai qui est devenu culte, entre guillemets, qui a beaucoup marché et qui parlait d'utopie. Alice Karabédian, rebonjour, enfin plutôt bonjour et bienvenue sur C'est plus que de la SF.
Salut tout le monde.
Alors la dernière fois, on vous avait quitté quand vous étiez en train de sortir cet essai qui était en lien avec votre thèse. Où est-ce que vous en êtes maintenant, Alice ?
Eh bien, je fais vivre ce petit essai de diverses manières, hein, des confs, des ateliers d'écriture, etc. Et puis, Banks est toujours pas loin, Ian M. Banks est toujours pas loin, donc je continue avec cet auteur.
On voulait vraiment faire un épisode sur L'Homme des Jeux depuis un moment. L'Homme des Jeux est un chef-d'œuvre de la science-fiction, il a été écrit en 1988. Alors justement, Alice, pourquoi, selon vous, L'Homme des Jeux est-il aussi un aussi grand roman de SF ?
Parce que déjà, il a été écrit l'année de ma naissance, ça joue. Ensuite, parce que je pense qu'il a un peu mis un coup de pied dans la fourmilière et du space opéra et de la pensée de l'utopie, des romans utopiques. On en avait peu, on en a toujours peu, mais je pense que voilà, Banks a réussi un combo assez magique en mêlant ces deux genres. Et L'Homme des Jeux est peut-être le livre qui montre le mieux cet exercice.
D'ailleurs, ça me permet de rebondir directement à ce que vous avez dit. Pourquoi il y a peu de textes, entre guillemets, utopiques, selon vous ? Est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué à écrire ou parce que, finalement, un récit où tout se passe bien, ça frustre un peu le lecteur ?
Alors, vaste question, et l'utopiste que je suis a envie de dire, ben si, il se passe plein de choses en utopie, mais évidemment, ça demande un petit effort de se demander ce qui s'y passe. Et voilà, mais ceci étant dit, on peut pas dénier le fait qu'en effet, l'utopie, si on fait une espèce d'histoire assez rapide, semble avoir quitté le champ de la fiction, peut-être au XIXe siècle, pour se concentrer dans des pamphlets vraiment politiques, dans des traités politiques, de comment on pourrait vraiment transformer la société, etc. Et donc, voilà, l'utopie aurait quitté la fiction pour se concentrer sur le réel, qu'elle n'a jamais en fait vraiment quitté, mais voilà. Et que dans la fiction, c'est plutôt la dystopie qui l'a supplantée. Pourquoi ? Parce que on commençait à se dire au XIXe siècle, finalement, l'utopie nous promettait des jours glorieux, la technique allait nous aider à vivre dans des cités radieuses, etc. Et on se rend bien compte que ça ne fonctionne pas comme ça. Et du coup, la dystopie, d'une certaine façon, apparaît. Et aussi, j'ajouterais qu'elle semble, en fait, dans la tête des gens, elle semble beaucoup plus sérieuse que l'utopie. Parce qu'elle est très critique. Elle prend des problématiques du réel, évidemment, je ne vous apprends rien, et elle les extrapole dans des mondes et elle tire toutes les conséquences logiques de tel développement de la technique, etc. Et de ce fait, elle semble plus sérieuse, plus responsable envers le réel, là où on a l'habitude, et c'est vraiment des idées reçues, hein, mais de se dire que l'utopie a fui le réel. qu'on monte dans son vaisseau, qu'on monte dans son bateau, qu'on quitte le continent et qu'on va fonder sa petite communauté parfaite et puis ciao le réel. Or, évidemment, si on retrace toute l'histoire de l'utopie, c'est pas vraiment le cas, mais ça reste une idée reçue.
On va revenir sur l'homme des jeux de Ian M. Banks. Comment expliquez-vous que ce cycle qui débute en 1987 avec une forme de guerre soit connu plutôt des amateurs de science-fiction, mais pas du grand public ?
Eh bien, c'est bien dommage. Je me l'explique pas vraiment, en fait, parce que c'est du space opéra, il y a de l'action, il n'y a rien d'un point de vue théorique et politique ou même anthropologique, comme on l'aime dans une certaine SF, il n'y a pas... Banks n'a pas grand-chose à envier à des auteurs comme Ursula Le Guin, par exemple. Il y a peut-être le fait qu'il soit écossais, je ne sais pas, moi. je ne me l'explique pas vraiment, en fait.
Ou qu'il n'a peut-être jamais connu tout simplement d'adaptation, et que c'est vrai que maintenant, avec le développement des plateformes et de l'audiovisuel, avoir une adaptation permet une forme de rayonnement sur son œuvre. Je vais citer l'éditeur du livre français Gérard Klein, qui explique à la fin de sa préface que l'auteur Ian M. Banks a renouvelé pratiquement d'un coup trois grands genres littéraires, l'utopie, le thème de la société galactique et enfin le space opéra. Vous cautionnez la fin de la préface, Alice Carabédian ?
Oui, vraiment. Je pense que la culture, donc la société que Banks imagine, renouvelle beaucoup de choses du space opéra et des sociétés d'ampleur incommensurable. Hein. La culture, à un moment, il le dit, je ne sais plus dans quel roman, évidemment, ou si c'est dans... son petit article, quelques notes sur la culture, mais c'est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'individus. Donc c'est vraiment une ampleur incroyable. Et là aussi, l'utopie, on a plutôt l'habitude de la penser sous la forme d'une petite communauté. Et Banks, en mariant space opéra, société galactique et utopie, justement fait voler hors d'éclat pas mal de choses. Notamment parce que la culture n'est pas vraiment une société. C'est pas une fédération, comme on a l'habitude d'en trouver. C'est pas non plus un empire. C'est une culture, et c'est une culture qui n'a donc pas de frontières, pas d'hymne, pas de drapeau. Banks crée une société qui part du principe que, a priori, tout le monde fait partie de la culture, pour peu qu'on accepte quelques valeurs communes.
Alors, le cycle de la culture est disponible au livre de poche dans son intégralité. Je vais juste rappeler les titres. Il y a L'Homme des Jeux, donc ce titre auquel on fait un podcast aujourd'hui, qui est devenu le tome 1. Alors qu'une forme de guerre est sortie plutôt avant. Donc il y a L'Homme des Jeux, il y a L'Usage des Armes, Une forme de guerre, Excession, Inversion, Le Sens du Vent, Trame, Les Enfers virtuels et enfin La Sonate d'Hydrogène. Tout est disponible au livre de poche. Vous parlez évidemment de ce cycle dans votre essai Utopie radicale. On en a fait un épisode ensemble et puis les auditeurs pourront réécouter cet épisode. Comment avez-vous découvert cette saga en tant que lectrice de SF et qu'est-ce qui vous a plu justement dans le cycle de la culture ?
Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Irène Langlais qui est professeure... Alors aujourd'hui, je ne sais plus dans quelle discipline, mais à la base, je pense en littérature comparée, qui m'avait conseillé de lire Banks dans la perspective de travailler ensemble, de faire une recherche sur la SF. Et je me rappelle très bien avoir ouvert les premières pages de L'Homme des Jeux au camping un été en vacances. Et ça m'avait à la fois bouleversé et à la fois énervé en regardant autour de moi, malgré le fait que je sois en vacances, de lire une pareille utopie. J'avais jamais lu ça, en fait.
Qu'est-ce qui vous avait plu qu'est-ce qui vous plaisait dans cette utopie que vous n'avez pas vue peut-être ailleurs ?
C'est l'excès d'utopie, je dirais. C'est pour ça que c'est à partir de son œuvre, hein, c'est à partir du cycle de la culture que j'ai conceptualisé l'utopie radicale dans ma thèse. Mais de rencontrer une utopie utopique. Moi, j'ai fait mon entrée dans la science-fiction avec 1984 et je dirais que le cycle de la culture m'a fait le même effet que 1984 quand j'étais ado. Il faut le dire, une grande claque, mais non pas sur l'avertissement comme fonctionne la dystopie d'Orwell, mais sur une forme d'espérance politique, on va dire. Et aussi parce qu'en fait, je pense que je n'avais jamais lu d'utopie ni dans la science-fiction et ni peut-être même dans d'autres genres littéraires.
Est-ce que vous pouvez peut-être un peu revenir sur ce fameux cycle ? Vous préparez un article pour le magazine Bifrost qui sortira en avril prochain. Pouvez-vous un peu nous présenter ce fameux cycle de la culture, donc je le rappelle, qui comprend 9 romans et un recueil de nouvelles ? En quoi ce cycle est original ? Qu'est-ce qui en fait sa particularité comparé à d'autres grandes sagas de SF ?
Alors déjà, chaque roman est indépendant et du coup, chaque roman offre une... C'est comme un hublot sur cette société utopique de Banks, la culture. Si bien qu'en fait, la culture, on la saisit jamais de façon frontale. On fait toujours, on entre toujours par ses marges. Et ça veut aussi là dire beaucoup de la pensée utopique qui serait pas quelque chose de centralisé, d'ordonné, etc. Mais quelque chose d'un peu désordonné, peut-être, comme l'est la culture. Donc il y a déjà cette indépendance des ouvrages, même si, évidemment, il y a des événements historiques qui réapparaissent ici et là, comme notamment une forme de guerre et le sens du vent font référence à un même événement qui est la guerre entre la culture et l'Empire d'Iran. Mais voilà, il y a cet éclatement des différents romans et puis le style aussi de chaque roman qui change beaucoup entre des choses à l'échelle des intelligences artificielles, peut-être qu'on en reparlera, qui sont des personnages et des citoyennes, des citoyens de la culture à part entière, des choses beaucoup plus intimistes et avec des personnages très torturés, etc. Voilà, il y a vraiment un mélange de tons dans chaque roman.
Peut-être un mot sur Ian M. Banks. Qui est-il, les Scarabédians ? Alors, pour rappel, Banks est né en Écosse en 1954. Il est décédé en 2013. Il signe Ian Banks quand il fait de la littérature générale et Ian M. Banks quand il fait de la science-fiction. Vous pouvez un peu nous le présenter ?
Alors, je ne l'ai pas connu, même si j'avais son mail, mais malheureusement, le temps que je me décide à lui écrire... Il était décédé. C'est un grand regret, évidemment, de ne pas avoir pu discuter avec lui. Je sais peu de choses de sa vie parce que, finalement, moi, dans mon travail d'analyse de son œuvre, ça m'intéresse assez peu. Mais je sais que c'était un militant antifasciste, qu'il s'est mobilisé contre la guerre en Irak, qu'il a écrit de la poésie. Puis surtout, ce qui me plaît beaucoup chez lui, c'est qu'il a écrit un guide sur le whisky. Je trouve que c'est assez intéressant pour être noté ici. Voilà, il est très, très ami avec Ken MacLeod, qui est un autre auteur de science-fiction.
Comment analysez-vous la société utopique de la culture, qui est très bien décrite dans L'Homme des Jeux ? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'elle dit politiquement, cette société utopique ?
Alors, c'est une société, voilà, comme on l'a dit, d'envergure galactique incroyable, qui se déplace principalement sur des habitats mobiles, soit des vaisseaux spatiaux, soit des astéroïdes à réacteurs, soit des ce qu'il appelle des orbitales, des espèces de mondes complètement artificiels. Et je trouve ça intéressant comme caractéristique de se dire une utopie qui se meut, qui bouge et non pas quelque chose de fixe. Parce qu'encore une fois, quand on pense aux images de l'utopie, on pense souvent à quelque chose de clos, de refermé sur soi, à l'image de l'île, etc. Et là, Banks, lui, fait le choix du réseau plutôt que de l'île. Donc ça, c'est un point assez important. Et cette société, donc, c'est une société très, très, très technologisée. En gros, la culture a les moyens de réaliser tous vos désirs. Et si bien que les individus qui peuplent cette civilisation ne se font pas prier hein, et passent leur temps principalement à s'amuser. Évidemment, il n'y a pas d'argent. Évidemment, c'est anarchiste, mais ça, il l'explique dans son petit essai, quelques notes sur la culture, comme quoi un certain développement technologique qui permettrait de vivre dans une société post-Rarté où la question des ressources ne pose plus problème, où la question du coup environnementale n'est plus en crise, on va dire, mènerait assez logiquement à une société anarchiste. Donc la culture, voilà, comme je disais, pas de drapeau, pas d'hymne, pas de frontières. Tout le monde fait partie de la culture à partir du moment où on se dit que ses camarades sont nos égales. Et aussi, c'est une des choses assez propres à Banks, je crois, c'est une des lois fondamentales de la culture, c'est de considérer les intelligences artificielles et les drones comme l'égale de tous les autres citoyens.
Et est-ce que vous, en tant que spécialiste des utopies, ça vous ferait plaisir ou ça vous plairait de vivre dans un monde comme dans la culture ?
Oui, comme disait Banks, il disait c'est mon my secular heaven, c'est vraiment une forme de paradis, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison de ne pas vouloir vivre dans la culture à partir du moment où voilà, ces quelques axiomes en fait sont acceptés, c'est-à-dire l'égalité, la liberté de toutes et tous. Ils ne savent même pas ce que veut dire le mot domination, pardon, ou même l'argent. Ils ont un slogan qui dit « l'argent signale l'indigence », vraiment, avoir recours à l'argent, qu'est-ce que c'est archaïque. Donc oui, je trouve que la culture est, est une utopie assez enviable. Mais là où ce que je trouve... Enfin, ce que je trouve très intéressant dans cette utopie, c'est que Banks ne nous a pas fait une utopie qu'on est censé appliquer demain. Voilà, il déplace un peu la question de l'espoir et du futur. Parce que souvent, on se dit l'utopie, à l'origine, évidemment, c'est Thomas More, c'est un déplacement spatial. Puis, petit à petit, c'est devenu un déplacement temporel, quelque chose à réaliser dans le futur. Et là, on voit évidemment la science-fiction aussi et l'utopie qui se rejoignent. Banks, il décale un peu cette question de... l'utopie comme quelque chose à réaliser. Moi, ce que j'ai fait avec ma thèse et mon concept d'utopie radicale, c'est de dire que l'utopie a une efficience politique, même si ça reste de la fiction. Du coup, c'était comment trouver un pouvoir, presque une puissance d'agir du livre, en fait, le fait de projeter ces images d'utopie, bien que irréaliste, improbable, on pourra mettre tous les mots qu'on veut, illusoire, chimérique, etc. Malgré tout, ça a des effets politiques.
Est-ce une société idéale ? Je pose la question parce que l'éditeur Gérard Klein, toujours dans sa préface, écrit « La culture ne correspond ni à la réalisation d'une utopie, ni au déroulement d'un programme. Elle est en un sens incroyablement conservatrice dans son désir collectif de maintenir intacte sa capacité à entretenir des projets. »
Je trouve ça assez bien tourné pour dire que c'est une utopie qui travaille à en rester une. C'est-à-dire, voilà, c'est pas une civilisation qui a tout accompli, qui est le point d'arrivée de la ligne droite supposée du progrès, de l'histoire, etc. On arrive en utopie, puis après, plus rien ne se passe. Non, la culture, c'est la culture utopique, en fait. C'est une société qui maintient vivante le fait de produire des utopies. Et ça se transmet, ça transparaît comment dans le cycle de la culture ? Ça transparaît, comme je le disais, par le fait que ce sont des habitats qui se déplacent, par exemple, par le fait que les individus passent leur temps à se transformer aussi, à changer de peau, à changer de basket, à sortir de soi pour expérimenter autre chose, etc. Donc il y a vraiment une notion du devenir et de la transformation, et comme le dit Gérard Klein, donc du projet. Et le projet le plus clair de la culture, c'est évidemment les deux institutions qu'elle a, qui sont Contact et sa sous-section Circonstances spéciales, qui sont des institutions, on pourrait dire des espèces de ministères des Affaires étrangères un peu, mais ça rejoint aussi plein de choses du space opéra plus classique, où voilà, on a une civilisation qui passe son temps à se promener et à aller chercher de nouveaux camarades de jeu.
C'est justement Contact et Circonstances spéciales qui apportent de l'action à tout ce cycle, puisqu'il y a des rebondissements, puisque souvent on suit des personnages qui vont travailler pour ces deux entités, qui vont faire des coups fourrés, qui vont faire de l'espionnage, même qui vont détruire des cultures. Je vais citer le travail du blogueur Apophis, qui a produit un formidable guide de lecture sur le cycle. On mettra un lien de son site dans notre épisode, dans les commentaires. Je le cite. « La culture est à la base non impérialiste, dépourvue de frontières, puisque en grande partie d'essence mobile, et hautement pacifiste. » Il précise plus loin. « On verra aussi que cette soi-disant société mature, pondérée d'une haute valeur morale, est tout à fait susceptible de céder à ses plus bas instincts. Si vous lui faites miroiter un trésor d'une valeur assez grande ou si une opportunité de réaliser un objectif politique entre parenthèses, pourtant noble, ne peut être saisi qu'en employant des moyens éthiquement douteux. » Alors, je me tourne vers vous, Alice Carabédian. Est-ce si utopique que ça, la culture, si finalement on doit utiliser des moyens pour détruire des adversaires ?
Alors, c'est la grande question, et c'est souvent une des critiques qui est faite à cette utopie. Mais alors, moi, tout mon travail de thèse a été de montrer en quoi c'était justement un moyen de maintenir son utopie vivante et politique, et que c'était très loin... à la fois et de l'impérialisme et d'une vision totalitariste de cette société. Parce que c'est considéré, en fait, que la culture étant une bonne société, voilà, là, c'est pas une société parfaite, c'est une bonne société, mon discours était de dire qu'elle ne pouvait pas rester indifférente au sort de ses comparses. Alors là, on peut se dire, oui, bon, bah, c'est l'ONU et c'est les Américains qui vont amener la guerre je ne sais où, soi-disant pour des valeurs morales, mais on sait bien qu'en dessous, c'est toujours pour des valeurs économiques. La culture, elle n'a rien à gagner, souvent, donc je suis assez en désaccord avec cette phrase, elle a pas à gagner grand-chose d'économique ou de matériel en s'occupant des affaires des autres. Mais simplement, si on se déplace non pas au niveau de la société, mais au niveau du concept d'utopie, l'utopie, elle est obligée d'être active à un moment. Elle est obligée de faire quelque chose, sinon elle ne sert à rien. Elle est obligée de se rendre visible. Et en fait, moi, je faisais une lecture, voilà, non pas impérialiste de la culture, mais une vision philosophique de cette section contact et de cette sous-section d'espionnage de circonstances spéciales. Mais si on retourne au niveau des romans, au niveau des histoires, des récits, etc., où en effet, dans chaque roman, on suit une mission de circonstances spéciales, donc circonstances spéciales qui s'occupent des situations vraiment incroyables qu'on peut trouver dans la galaxie, du type un empire totalitaire qui ne veut pas s'effondrer de lui-même. C'est le récit de l'homme des jeux. La culture va s'infiltrer par un moyen ou par un autre, soit en envoyant un personnage de la culture elle-même, comme c'est le cas dans l'homme des jeux, mais le plus souvent en contactant des personnes sur place qu'elle va un peu aider, un peu aiguiller, etc. Donc si bien qu'en fait, elle n'apporte pas la révolution, elle n'apporte pas la guerre, etc., mais elle permet qu'une révolution éclate par elle-même et que les sociétés puissent s'émanciper de telle ou telle tyrannie.
Mais est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement une volonté juste de domination et de maintenir son système plus fort que les autres, quoi qu'il arrive, et empêcher la naissance, entre guillemets, de futures sociétés adverses ou concurrentes ?
En fait, alors, d'une part, il n'y a pas de raison de rejeter la culture. Sauf si on est soi-même un dominant et un tyran, en fait, parce que voilà, la culture n'a pas de... Enfin, c'est là où il est assez fort, Banks, et il ne faut aussi surtout pas effacer la part d'ironie et de paradoxe de cette utopie.
C'est très drôle, hein. Enfin, il faut le préciser, il y a beaucoup d'ironie dans la culture. C'est assez brillant, c'est marrant, c'est cynique aussi, il y a des personnages très cyniques, et du coup, ça c'est très fort chez Banks.
C'est une des caractéristiques principales de cette utopie d'ailleurs, et même de à la fois de la société et la culture, mais aussi de l'écriture de Banks.
Et sur la question de la domination, finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu une volonté de domination morale de la culture ?
Je ne pense pas qu'on puisse parler de domination à partir du moment où la culture incarne des valeurs éthiquement qu'on ne peut pas rejeter. Donc, il y a la liberté et l'égalité, par exemple, ou l'absence de frontières, le fait de s'amuser comme on le souhaite et de ne plus avoir à travailler, par exemple. Donc c'est pas une forme de domination puisqu'elle n'a rien à y gagner et qu'en fait elle part du principe que tout le monde fait partie de la culture à la base. Donc on peut pas parler en termes de domination, même si dans les romans évidemment ça se traduit par des intrigues politiques, etc. Donc il y a vraiment une sorte de paradoxe, mais qui est, je pense, super fécond et qui fait que voilà, la culture n'est pas totalitaire, etc. Parce qu'il y a ces paradoxes et parce qu'elle essaye d'en faire quelque chose. Qu'est-ce qu'une société qui se passe majoritairement sur ses marges ? Donc Banks, en plus, fait le choix de nous parler des marges de la culture, c'est-à-dire là où il se passe des choses, et c'est jamais dans le sein de la culture elle-même. Donc voilà, une société qui fait le pari d'entrer en contact, de s'occuper de ce qu'il appelle des circonstances spéciales, c'est quand même assez, assez chouette et très significatif, même le nom de cette institution. Donc c'est incomparable avec une puissance impérialiste. Et encore une fois, je pense qu'il faut il faut ramener la culture à ce qu'elle est, c'est-à-dire un texte utopique aussi, et que l'utopie est impliquée. Pour moi, l'utopie, ce n'est pas une fuite hors du réel. L'utopie est impliquée et elle est responsable envers le réel. Si bien que si on traduit ça dans un roman, bah en fait, la culture est impliquée. Et d'ailleurs, les impliqués, c'est le nom des civilisations de haut niveau dans l'univers de Banks. Donc les civilisations qui ont le voyage galactique, etc. Donc qui peuvent entrer en contact les unes avec les autres, ils les appellent les impliqués. Et vraiment, cette notion d'implication, je pense qu'elle est très forte politiquement. Voilà, on ne peut pas laisser crever les gens qu'on croise dans le caniveau. Elle est obligée, elle est responsable, elle est obligée d'agir.
J'ai interviewé l'auteur de science-fiction française Romain Lucazeau dans Métal Hurlant numéro 9, où vous y êtes justement, puisqu'on a fait un papier, Charles Napec a fait un papier sur le Hop-Punk et vous avez été interviewé dans ce numéro. Romain Lucazeau m'a donné son avis sur le cycle de la culture, qu'il apprécie évidemment. Je voudrais vous faire réagir à son analyse. Effectivement, Banks, c'est génial, c'est une de mes inspirations, mais seulement parce qu'il y a une extrême limite qui est recherchée. Les intelligences artificielles de Banks sont des gigantesques vaisseaux ou des stations spatiales. Elles régulent cette société-là et sont les véritables maîtres de ce monde de la culture. Qu'est-ce qu'elles nous disent ? Premièrement, elles placent l'utopie sociale à l'extérieur de l'histoire ou de la marche historique des hommes. Deuxièmement, elles posent l'utopie comme un objet ambigu, parce que c'est aussi une forme extrêmement douce de tyrannie. Si on lit Banks autrement, c'est qu'on est un petit peu de mauvaise foi. Vous en pensez quoi, Alice Karabédian qui rigolait ?
Alors, j'embrasse complètement ma mauvaise foi, parce que voilà, comme on vient de le dire, je ne pense pas du tout que ce soit une... Enfin, que la culture représente une forme de tyrannie, pas plus que je pense que ces intelligences artificielles qui ont en effet en charge toute la partie, on pourrait dire, administrative ou gestionnaire de la culture, ne sont elles aussi des tyrans. Pourquoi ces intelligences artificielles ne sont pas des tyrans ? Donc en effet, ça frôle la machine merveilleuse. Hein. Elles ont une intelligence incommensurable. Ça fait belle lurette que les humanoïdes, ou comment ils les appellent, les bipèdes carbonifères, je crois, ne savent plus comment ces intelligences artificielles fonctionnent. Mais encore une fois, Banks, et c'est là où c'est super intéressant, et ça renvoie aussi à ce que disait Gérard Klein dans sa préface, c'est qu'il ne nous fournit pas un programme ou un projet d'utopie qu'il s'agirait de réaliser aujourd'hui. Il ne nous dit pas comment ces intelligences artificielles en sont arrivées là, enfin, il ne l'explique pas vraiment, mais ce que ça permet, en fait, il imagine ces intelligences artificielles qui permettent donc déjà de libérer les humains de tout un tas de contraintes liées à l'administration des déchets, par exemple, ou d'électricité, ou que sais-je, de l'énergie, etc. Si bien qu'il pose la question, mais alors qu'est-ce qu'on y fait une fois qu'on est délesté de ces problèmes-là ? Et aussi, donc il y a ce premier postulat et qui permet cette question-ci, et il y a un autre postulat qui est, dans la culture, encore une fois, il n'y a pas de raison de dominer, il n'y a pas de raison de faire de l'esclavage, il y a pas on est très loin de Terminator ou des images d'intelligence artificielle qui se rebellent et qui du coup veulent exterminer l'humanité. Mais pour autant, enfin, ces intelligences artificielles, on peut les espérer, on peut les souhaiter, mais elles ne sont pas de notre monde. Dans le monde actuel, c'est pas je ne pense pas que ce soit par la création d'intelligence artificielle de ce type que on arrivera forcément à changer le monde. Et d'ailleurs, il y a je crois que dans tout le cycle, il y a seulement deux phrases où Banks explicite comment est née la culture, et c'est pas grâce spécialement aux intelligences artificielles, mais c'est grâce premièrement à la maîtrise des ressources. Donc, comme on le disait, voilà, un rapport à l'environnement, bien que ce soit une société super technologisée, il y a quand même un rapport à l'environnement non extractiviste, on peut imaginer, très respectueux, etc. Donc, la maîtrise des ressources et l'autre condition qui a permis à la culture d'émerger, c'est la possibilité du voyage galactique. Et du coup, cette ouverture sur l'altérité, sur le reste de la galaxie, etc. Donc, je trouve ça super intéressant de... Ces deux piliers de la fondation de la culture.
Pour peut-être un peu rebondir sur les propos de Romain Lucaso sur cette douce tyrannie, on a quand même face à des personnages ou des héros qui sont souvent manipulés par contact et circonstances spéciales. On n'a pas l'impression qu'ils ont vraiment le choix. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut aussi voir qu'il y a quelque chose d'ambigu dans cette culture. C'est qu'on a quand même des personnages, souvent dans le cycle, qui, à la fin, on se rend bien compte qu'ils ne sont juste des pièces pour une machination géopolitique, géopolitique ou planétaire, interplanétaire.
Mais c'est assez fort de la part de Banks, en fait. Alors si je défends la culture bec et ongle, mais néanmoins, en fait, cette question de la manipulation, du chantage, etc., qui va lancer les intrigues hein, aussi des romans, moi je le vois, si je le passe en philosophie politique, par exemple, comme la circonstance spéciale, c'est des occasions pour la culture de devenir aussi un espace politique.
On a pas mal présenté le cycle de la culture, on a un petit peu parlé, voilà, on a fait une belle introduction, je pense, à ce qu'est le cycle littéraire de la culture. Est-ce que tu peux un peu nous dire de quoi ça parle, l'homme des jeux ?
Alors, l'homme des jeux, ça suit un personnage qui est lui-même une forme de marginal dans la culture, qui s'appelle Gernot Gourguet. Alors, il a un nom à rallonge, comme tout bon culturien.
Gernot Mora Gourguet.
Voilà. Mais même avec, il y a son adresse postale dans complet, je ne sais plus évidemment de tête, qui est un joueur de jeu. donc The Player of Games. Donc sa passion, son activité principale est d'avoir joué à tous les jeux possibles, d'avoir écrit sur tous les jeux possibles que cette galaxie banksienne peut porter. Et c'est un personnage assez... Il est marginal parce que, bizarrement, il s'ennuie. Il a joué à tous les jeux et voilà, il s'ennuie. Et c'est assez intéressant de la part de Banks de nous faire plonger dans son univers par le biais de ce personnage qui, justement, s'ennuie. Alors que c'est une des critiques, une des premières critiques qu'on fait à l'encontre de l'utopie. C'est franchement, ouais, c'est sympa, tout le monde est l'égal de tout le monde, mais franchement, on s'ennuie un peu. Et du coup, c'est assez fort d'avoir pris ce personnage qui est presque une forme de réactionnaire dans sa propre société. Alors, il a jamais changé de corps, alors que c'est une banalité dans la culture. Il est assez bougon, il est amoureux d'une amie, mais son amie lui dit « Mais non, mais moi, je veux pas que tu me possèdes. » Enfin, ça va pas la tête. Donc voilà, c'est un personnage assez étrange.
Oui, parce que dans le monde de la culture, on peut changer de corps, de sexe. Comme c'est une société anarchiste, la possession entre les êtres humains n'existe pas vraiment. Et c'est vrai qu'on est face à un personnage colérique, un peu mélancolique, alcoolique, quelqu'un qui, comme vous l'avez très bien dit, s'ennuie et détonne un petit peu.
Et donc ce personnage détonnant va tomber sur un drone un peu goguenard, dirons-nous, qui voilà, il va être au centre d'une manipulation et il va se retrouver à bord d'un vaisseau qui s'appelle le Facteur Limite, en route pour un empire totalitaire comme la galaxie emporte encore quelques-uns, nous dit Banks, qui s'appelle l'Empire d'Azad, qui est lui-même un empire fondé sur un jeu. Donc le jeu d'Azad, où selon les résultats qu'on a dans ce jeu, on a une posture plus ou moins haute dans la société.
C'est ça, Jernomorag Gurgay va découvrir une nouvelle société qui est basée sur les jeux. Plus vous êtes bon joueur, plus vous pesez dans le game. Voilà comment on peut résumer un petit peu de cet empire azadien. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cet empire qui fait penser à clairement une société totalitaire ?
Oui, c'est une société totalitaire qui use de la torture et autre joyeuseté pour maintenir son pouvoir en place, avec un ordre établi très, très, très bien établi, qui est divisé en trois castes qui correspondent à trois genres. Donc il y a le genre masculin qui est, voilà, les hommes, enfin, c'est des humanoïdes aussi, donc des bipèdes. Les hommes sont plutôt utilisés pour leur force et sont les soldats de cette société. Les femmes sont les biens mobiliers et évidemment les reproductrices. Et au milieu, on trouve les apicaux, donc l'apicale, qui est la caste dominante qui gère cette société.
Tout le sel de ce roman, c'est de raconter comment Jernomorag Gurgay va, au fur et à mesure, va participer à un tournoi et donc va prendre de plus en plus d'importance à travers ce tournoi et donc remettre en question, comme il ne fait pas partie de ce monde-là, il vient d'un autre monde, il va remettre en question cette société totalitaire. Est-ce que on peut dire que c'est là le sel un peu de ce roman, c'est cette fameuse montée en puissance d'un héros qui va prendre plaisir à jouer, même s'il joue à un jeu dangereux.
Si, oui, et puis c'est encore une fois une façon pour Banks de nous montrer les paradoxes de ces personnages et de ce personnage qui finalement se retrouve à jouer pour gagner. Et évidemment, jouer pour gagner dans la culture, ça n'existe pas. Hein. On joue pour le jeu et parce qu'on s'amuse bien avec ses camarades. Là, lui, il se retrouve pris dans ce jeu et à vraiment vouloir gagner. Et en effet, il gravit les échelons jusqu'à au combat final. Mais la force de Banks dans ce roman, c'est... voilà, ça part de la culture. Donc on part de la culture, on part de Gernot Gurgay sur son orbital qui s'ennuie et on arrive dans l'Empire d'Azad avec un passage entre les deux qui correspond au voyage entre la culture et l'Empire d'Azad qui permet aussi de suivre ce personnage qui va rencontrer une dystopie. Et là, c'est assez intéressant parce que la dystopie, on a plutôt l'habitude de la découvrir depuis l'intérieur en suivant des personnages qui sont pris dans des mondes carcéraux, totalitaires, etc. C'est un peu comme ça qu'on a l'habitude de lire la dystopie, là où, au contraire, l'utopie, on a plutôt l'habitude de la lire en suivant un voyageur qui va découvrir l'utopie. Donc là, Banks, il inverse la chose. Et la puissance de ce roman, et qui, moi, m'a un peu fait l'effet de 1984, c'est que ça commence... voilà, dans l'hédonisme de la culture, et d'un coup, en fait, ça monte, et d'un coup, on est face à l'horreur de l'Empire d'Azad. Enfin, il y a des pages de description de torture assez, assez marquante. Et je trouve que c'est un peu la force de ce roman, c'est vraiment d'avoir fait se rencontrer ces utopies et dystopies. Alors on pourrait dire que c'est assez banal, enfin, les dépossédés de Le Guin, il y a aussi ça. Mais là, il y a vraiment l'hédonisme versus la violence qui rejaillit très fort de l'écriture banksienne.
Justement, alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les dépossédés d'Ursula Le Guin, on a fait un podcast hein, évidemment sur ce classique, et L'Homme des Jeux, dans lequel on a un espèce de même dispositif. Un personnage venant d'un monde utopique découvre un monde à l'inverse de ce qu'il pense, et évidemment, cette rencontre avec ce monde inverse va le bousculer ou basculer ou va faire bouleverser sa vision du monde.
Si, complètement. Et sur le fonctionnement et sur le propos même de l'utopie de Le Guin et l'utopie banksienne, il y a beaucoup de correspondances. Après, sur le ton du texte et sur même la narration, l'action, etc., ça dit, on va dire que ça swing plus chez Banks que dans Les Dépossédés.
Est-ce que finalement, L'Homme des Jeux, c'est pas un grand roman sur la thématique des chocs de civilisation ?
Alors, le choc des civilisations, c'est une notion assez controversée. Je pense que c'est pas du tout le cas, en fait, parce que politiquement, ça renvoie à une certaine vision de la géopolitique qui n'est pas, en fait, celle de Banks, où d'un côté, il y aurait une civilisation, dans le choc des civilisations, c'est une civilisation occidentale, puis une civilisation musulmane, et tout ça se rencontre, et évidemment, ça ne peut pas fonctionner et ça ne pense pas du tout en fait les zones de perméabilité entre les civilisations. Enfin, c'est complètement arbitraire de aujourd'hui surtout de dire qu'il y a des zones civilisationnelles, enfin on est à l'ère de la mondialisation quand même. Mais du coup, chez Banks, ça renvoie un peu à ce qu'on disait sur l'usage de la violence ou le fait que la culture aille se mêler des affaires des autres, etc. C'est pas un... Alors oui, il y a un choc dans le sens où, comme je le disais, entre l'hédonisme de la culture et ce totalitarisme qui est abominable. Enfin, il fait une description de l'Empire d'Azad abominable. Mais on ne peut pas le rabattre à cette notion, je pense, de choc des civilisations, quelque chose de géopolitique, de l'ordre géopolitique qui est trop lié à nous.
Oui, et en même temps, c'est ce qui est intéressant, en tout cas, quand on lit ce roman, c'est on passe quand même par à peu près 150 pages, le roman met un peu de temps à commencer, où on a toute une description de la cité de la culture, de la société de la culture, puis on arrive au fameux Empire d'Azad, et puis on voit le côté monstrueux de cet empire, et on arrive tout de suite dans le tournoi qui va prendre une bonne partie du roman. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est finalement de voir... ces deux mondes qui s'affrontent, puisqu'en fait, Görgey est le représentant officiel de la culture. Et donc, on assiste, on va dire, à une civilisation plus avancée, plus brillante, plus smart, voilà, versus un monde totalitaire, horrible et froid. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est finalement cette bataille symbolique autour du jeu, où l'idée est de quand même montrer que la culture, et c'est pour ça que notre héros est envoyé là-bas, est supérieure. Il y a quand même une volonté de la culture de prouver sa supériorité symbolique et aussi qui permet de détruire cette société, puisque si l'empereur de ce monde est battu, finalement ce sera le chaos, puisqu'en fait le système de ce monde-là sera détruit.
Ce qui est intéressant aussi sur les... Voilà, comme tu le dis, il y a les valeurs qui s'opposent. Enfin, c'est très clair, mais c'est aussi là où Banks est fort, c'est qu'il nous fait partir avec ce personnage qui s'ennuie dans la culture. Donc, comme toute bonne lectrice, tout bon lecteur, on est du côté du personnage. On va commencer à avoir un regard critique sur cette société soi-disant utopique, etc. Et hop, il nous transpose dans l'Empire d'Azad, si bien que à la vue du total de l'horreur de ce totalitarisme, on se dit quand même oui, la culture. Au final, c'était pas mal. Donc il y a aussi un balancement comme ça par le biais de ce personnage.
Peut-être. C'est quoi pour vous la morale de ce roman ? Est-ce que L'Homme des Jeux a une morale d'ailleurs ? Parce qu'on est quand même face à une morale assez ambiguë. On ne va pas divulgâcher parce que l'idée est vraiment d'encourager les auditeurs et auditrices à lire L'Homme des Jeux, à découvrir le cycle de la culture. Mais on a quand même un final où on peut se demander quelle morale Banks veut nous transmettre, puisqu'on on a quand même une fin assez ambiguë, et c'est ce qui fait aussi le côté génial de ce texte.
Alors, à part dire que l'utopie gagne toujours.
Dernière question, une des dernières questions à Alice Karabédian. Vous évoquez cette question de la culture, ou en tout cas cette société utopique doit se défendre. Pourtant, on a souvent l'impression dans l'imaginaire populaire qu'une société utopique, c'est une société pacifiste, où c'est un petit peu cuicui les petits oiseaux, quoi, où tout se passe bien, tout est beau, voilà. Est-ce que vous pensez qu'il faut défendre son utopie et même être prêt à se défendre, en tout cas de ce que nous montre la culture, c'est qu'on peut être prêt à se défendre et faire appel à des espions, à faire appel à des mercenaires en fait pour défendre avec les armes vraiment sa culture et son utopie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'il faut être prêt à aller entre guillemets aux armes pour défendre son utopie?
Il y a deux choses. Je pense la première, c'est de en lisant le cycle de la culture ou ne serait-ce qu'un roman, c'est de garder en tête que ces romans, de la façon dont Banks nous en parle, c'est jamais qu'un milliardième de la vie de la culture. En fait, il fait le choix, voilà, comme je pouvais le dire tout à l'heure, de nous raconter des histoires marginales à la culture. Donc l'utopie de la culture ne se résume pas à circonstances spéciales et à l'usage parfois étrange qu'elle fait de ses espions ou même de ses vaisseaux spatiaux qui sont, il faut le dire, très bien armés. Donc dans une forme de guerre ou même dans Excession, on a la culture a quand même une sacrée armada. Donc voilà, il pose aussi la question de l'usage de la violence. Conceptuellement, moi je trouve qu'un usage de la violence peut parfois se justifier. Banks, il fait se rencontrer la culture avec comme on a parlé de l'empire d'Azad, des totalitarismes terribles. Parfois, il y a du conflit ouvert. Parfois, c'est plus sournois que ça. Comme on disait, c'est plutôt de l'espionnage, en fait. Il y a de la guerre galactique. Là-dedans, il y a du Star Wars, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'espionnage.
Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut trouver un équivalent pour vous au cycle de la culture en termes d'utopie, en termes de concept utopique? Est-ce qu'il y a un équivalent à ça? En termes littéraires, est-ce qu'il y a des romans qui se rapprochent, selon vous, de la vision banksienne?
Avec autant de panache, je ne crois pas, non. Parce qu'on parlait des Dépossédés de Le Guin, et autant sur les valeurs politiques, etc., c'est très proche, mais c'est deux façons très très différentes de traiter de l'utopie. C'est pas écrit à la même période aussi, les années 70 et les années 80, mais c'est sur la notion d'excès. Il y a chez Banks un appétit, mais pas un appétit qui serait destructeur de monde, etc., mais un appétit d'exubérance assez développé, là où chez, dans les Dépossédés de Le Guin, c'est au contraire une très grande sobriété.
Quel est votre roman préféré du cycle de la culture de Ian M. Banks?
Alors je dirais L'Homme des Jeux et La Sonate Hydrogène. Les deux ont un fonctionnement assez semblable et un humour assez... assez décalé, qui est, je trouve, c'est les deux romans qui m'ont le plus secoué.
C'est intéressant parce qu'on cite peu La Sonate d'Hydrogène, qui est le dernier. Pourquoi vous pensez? On cite souvent les trois premiers, on va dire. Est-ce que parce qu'il y a peut-être moins d'action que les précédents?
La Sonate d'Hydrogène, pour moi, c'est autant L'Homme des Jeux, c'est une super porte d'entrée dans la culture. Je trouve que La Sonate d'Hydrogène aussi, mais en fait, finalement, pour moi, c'est un super guide de lecture a posteriori du reste des œuvres, parce qu'on apprend plein de choses sur la culture qui sont plutôt disparates dans le reste. Du coup, je trouve que c'était un roman qui, malheureusement, clôture très bien le cycle, mais qui, en même temps, ouvre sur plein de questions sur cette civilisation.
C'est la fin de notre discussion sur L'Homme des Jeux. J'espère qu'on vous a donné envie, chers auditeurs et auditrices, d'aller lire L'Homme des Jeux. C'est un roman que vous pouvez trouver chez votre libraire, évidemment. C'est au livre de poche. Le roman fait 490 pages. Vous avez en plus une très très bonne préface de Gérard Klein, passionnante. Et le livre est traduit par Hélène Collon. N'hésitez pas à plonger dans le monde de la culture et rejoignez un petit peu la secte. On est plusieurs à en parler. Ça fait plusieurs podcasts que certains invités parlent de la culture, parlent de Ian M. Banks avec Planète B, les amis de Planète B qui étaient venus sur le podcast, on en avait aussi parlé. C'est vrai que ça faisait longtemps que vous voulez faire cet épisode, donc vraiment n'hésitez pas à découvrir L'Homme des Jeux, qui est une super porte d'entrée. Alice Karabedian, je crois que vous préparez un essai sur la question. Quand est-ce qu'il sortira ?
Oui, si les dieux culturiens le veuillent bien, j'espère qu'il sortira en 2025.
Sinon, on peut retrouver des textes que vous allez écrire dans le Bifrost d'avril, c'est ça ? Très bien. Ce sera sur quoi les textes ?
Alors, un premier article qui est une présentation assez générale du cycle de la culture et de la culture en particulier, et un deuxième article pour la rubrique de Roland Lehoucq qui s'appelle Scientifiction, et du coup là c'est plus philosophie politique.
Magnifique. Eh bien écoutez, un grand merci Alice, et puis j'espère qu'on vous reverra une troisième fois dans C'est plus que de la SF.
Merci beaucoup Loïc.
À très bientôt.